Eh bien, bienvenue à tous. Nous vous souhaitons déjà anticipativement un joyeux Noël. Que la paix de Dieu soit sur chacun d'entre nous et que nous puissions vraiment vivre ce culte sous la bénédiction du Seigneur, sous sa présence, que vraiment nous sentions cet esprit de Noël qu'on devrait avoir toute l'année. Parce que qu'est-ce que c'est l'esprit de Noël? C'est la naissance du Sauveur. Et nous qui avons rencontré ce Sauveur, pour nous, cet esprit doit nous poursuivre toute l'année, pas simplement cette période de fête. Et nous allons prier le Seigneur afin que, vraiment, il nous bénisse et que ce culte soit vraiment un culte de bénédiction. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons lorsque nous sommes à nouveau réunis pour fêter ta naissance, ta venue, Seigneur, notre Dieu. Et nous te remercions d'être venu nous rencontrer. Nous voulons ce matin, Seigneur, vivre ce culte intensément en nous souvenant de ta venue, mais aussi de ton parcours terrestre qui fut difficile, qui t'a conduit à la croix. Mais tu n'es pas resté, tu es descendu au tombeau et tu en es sorti pour partir, rejoindre le Père, pour nous préparer une place. Nous voulons bénir cet instant, Seigneur. Nous te demandons de nous visiter chacun, d'aller rencontrer ceux qui sont absents, Seigneur, pour différentes raisons. Le découragement, la maladie, que tu nous rencontres encore ce matin, là où nous sommes. Tu nous connais chacun en particulier, peut-être avec nos fardeaux, nos difficultés, nos problèmes, nos joies, nos peines, et nous te les présentons ce matin, afin que tu puisses vraiment nous bénir. Amen. Et pour commencer ce culte, nous allons projeter une vidéo avec le chant « C'est Noël » chanté par le groupe Glorious. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir, oui, Jésus notre espérance. Et nous voici à nouveau réunis pour fêter Noël, fête traditionnelle, dit-on, fête de famille, où l'on aime à juste titre se retrouver ensemble. Mais que fait-on-nous à Noël? Et j'ai l'impression, comme je l'ai déjà dit, sans me tromper, que nous avons dans notre société oublié le vrai sens de la fête de Noël, c'est-à-dire fêter la naissance de Jésus, du Messie, du Sauveur de l'humanité. Et je ne sais pas si vous écoutez les nouvelles, si vous regardez la TV, vous écoutez la radio et tout ça, on parle bien sûr de Noël, on n'arrête pas d'en parler. Mais combien de fois ces temps-ci avez-vous entendu parler du nom de Jésus? De moins en moins, on parle de Jésus, c'est la fête familiale, les cadeaux, le Père Noël, les lutins, enfin, tout ce qu'on veut. Et celui qui est à la base de cette fête, on l'a complètement oublié, éradiqué de nos pensées, de notre vocabulaire. C'est bien simple, ce sont des vacances d'hiver et pas des vacances de Noël. Donc tout cela doit s'effacer de notre mémoire pour ne rester que le folklore et la guindaille, la bonne bouffe et les beuveries. Et après cette fête de Noël, que retiendra encore cette année de cette fête? Les cadeaux, la dinde, le bon vin, la bûche, tout cela est beau et bon. Mais le vrai sens de cette fête, y pensera-t-on vraiment le lendemain du 25 décembre? Ou alors nous nous préparons tout doucement au prochain réveillon, le réveillon du Nouvel An. Voilà pour beaucoup ce qu'est la fête de Noël. L'espérance, espérance de quoi? De paix, quand nous voyons déjà ce qui s'est passé vendredi soir à Magdebourg, nous sommes loin de la paix de Noël. Avant, c'était encore la trêve des confiseurs, mais maintenant, il n'y a plus de trêve. Le monde est de plus en plus révolté contre Dieu et nous voyons les conséquences. Je voudrais vous proposer une lecture que nous connaissons bien. Matthieu chapitre 1, où l'on nous parle de la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'elle ait habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Jésus a eu la joie d'avoir des parents consacrés. C'est pour cela que Dieu a choisi Marie pour porter cet enfant et Dieu a choisi Joseph pour être son père adoptif. C'était sûrement et certainement un homme et une femme consacrés. Il avait, Jésus, une famille à l'écoute de Dieu et nous le voyons. Voyons Joseph au début de cette histoire et pendant la petite enfance de Jésus, combien il écoutait Dieu dans ses ordonnances. Et avoir un foyer comme Jésus a eu, c'était quelque chose d'extraordinaire. Si aujourd'hui encore nous pourrions avoir des foyers ainsi, quel beau Noël ce serait pour beaucoup, des familles unies, rassemblées autour de la parole de Dieu. Et nous allons chanter un premier chant. Ce chant nous dit « Il est né, le divin enfant ».
Une étable et son logement.
Pour suivre ce culte de Noël, Simone va nous lire un conte qui a pour titre « Quatre flammes pour Noël ».
Cet après-midi, nos yeux sont fixés sur la lumière de Bethléem. Alors, permettez-moi, en regardant l'enfant de la crèche, de vous raconter une histoire. Nous sommes en famille, un soir de Noël, toute la maisonnée parle et rit pendant qu'un enfant se glisse dans la salle à manger et s'approche de la table décorée. Au milieu des décorations, l'enfant remarque quatre belles bougies dont les flammes brillent, dansent, pleines de vie et semblent tenir conversation. « Moi, je suis la lumière de la paix, » dit la première flamme. « Et je me demande pourquoi je brûle. Qui croit encore en la paix? Regardez ces guerres partout, ces gens innocents qui meurent. Regardez ces violences à l'école. Regardez ces disputes à la maison. Je suis la lumière de la paix et je ne sers à rien. Personne ne désire plus m'accompagner et m'accueillir ou me propager. » En disant ces mots, la première flamme, celle de la paix, s'éteignit. La deuxième flamme prit aussitôt la parole. « Moi, je suis la lumière de l'amour et je me demande aussi si je vais continuer à brûler. Aujourd'hui, les gens s'enferment et ne pensent qu'à eux. Leur seule lucarne, ce sont les écrans de télé, d'ordinateur ou de téléphone portable. Là, ils voient bien qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas à manger ou qui souffrent. Ils voient aussi d'un œil distrait les reportages sur les personnes seules, sur les gens à la dérive. Ils voient tout cela, mais ils restent assis dans leur fauteuil. Il ne faut rien. Ils ne bougent pas le petit doigt. Et moi, je vis pour être donné, pour être partagé. Alors, à quoi bon vivre? À quoi bon continuer à brûler? » En disant cela, la deuxième flamme, celle de l'amour, s'éteignit. La troisième bougie de Noël prit la parole. « Moi, je suis la lumière de la foi. Ça fait des années que je dis, ayez confiance en Dieu, il est là avec nous, il peut nous accompagner, nous épauler, nous porter. Il écoute nos prières et les exauce bien souvent. Mais qui croit en ces paroles? Qui a confiance en Dieu? Qui s'appuie sur lui? Qui prie? Je crois que moi aussi, je suis inutile. Les gens n'ont plus besoin de moi. » Et la troisième flamme, celle de la foi, s'éteignit. Il ne restait plus qu'une flamme. Et l'enfant était devenu triste parce que la belle table de Noël était presque dans l'obscurité. L'enfant dit à la dernière flamme, « Alors, toi aussi tu vas t'éteindre? » Seule, mais plus vive que jamais, la quatrième flamme répondit, « Non, je vais continuer à briller, toujours. Je suis la lumière de l'espérance. C'est moi qui vous permet de tenir pendant ces moments de tristesse, pendant les moments de découragement ou quand tout va mal. Je suis la lumière qui jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le froid pour illuminer les terres humaines. Je suis le petit enfant de Bethléem qui s'aime et qui s'aime encore et qui rallume toutes les vies éteintes. Et je serai toujours là. » L'enfant médita un instant ces paroles. Il comprit que la flamme de l'espérance pouvait redonner vie à toutes les autres flammes. Il prit alors entre ses mains la petite lueur et ralluma bien vite les trois autres mèches, celle de la paix, celle de l'amour et celle de la foi. Et toutes ces flammes brillèrent d'un si grand feu qu'elles illuminèrent fortement le cœur de tous les convives. Tous en cœur, ils se mirent debout et chantèrent à la gloire de Dieu.
Nous allons chanter maintenant ce chant qui nous dit « Les anges dans nos campagnes ». À nos musiciens de reprendre place là-bas parce que nous allons projeter une vidéo, courte vidéo de 6 à 7 minutes, qui a pour titre « Le véritable sens de Noël ». C'est comme nous en avons parlé au début de cette rencontre, ce n'est pas le bien manger, le bien boire. Le vrai sens de Noël, c'est la venue du Sauveur. Alors, pour nous chrétiens, n'oublions pas ce que nous allons fêter encore cette année. Je vous propose de regarder cette vidéo. Dieu avec nous. Il est avec nous ce matin. Emmanuel est au milieu de nous. Et c'est lui que nous célébrons. Celui que nous acclamons. Parce qu'il nous a apporté le salut, la lumière, l'espérance. Et nous croyons en lui. Et nous sommes heureux de croire en lui parce qu'il est là. Chaque jour, à nos côtés. Maintenant, Guy va nous faire une lecture.
À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
Pas de place pour Jésus dès sa naissance. Jésus, le Sauveur, est obligé de naître dans une étable. C'est choquant. Je ne sais pas si vous avez été choqué, mais moi, ça m'a fortement choqué quand j'ai entendu qu'à Mayotte, un cyclone est arrivé et que des milliers de personnes vivant dans un département français, c'est ça qui m'a plus choqué, vivaient dans des bidonvilles, des milliers de personnes. Et on parle de la grandeur de la France, comme on parle de la grandeur de la Belgique. Mais ça m'a choqué qu'au XXIe siècle, un pays soi-disant développé loge encore ses habitants dans des bidonvilles. C'est terrible. Et notre Sauveur est né lui aussi comme un SDF, dans une étable. Pas de place pour Jésus. 21 siècles plus tard, nous nous retrouvons dans la même situation. Combien de nos contemporains trouvent-ils un peu de place pour Jésus, le Fils de Dieu? Nous sommes trop occupés pour nous soucier de lui. Le temps nous manque. Tout cela n'est qu'une légende que l'on raconte aux enfants afin qu'ils s'endorment le soir. Et pourtant, c'est une histoire vraie. Mais nous, nous sommes ses enfants, des enfants de Dieu, et nous voulons célébrer sa naissance avec joie. Et maintenant, le groupe Be Witness va chanter « Noël est arrivé ». Écoutons ce que nous dit l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Jésus se définit comme étant la lumière du monde. Cette lumière nous éclairant. Ce monde vit dans les ténèbres, nous le voyons bien tous les jours. Le texte nous dit que cette lumière, donc Jésus, a vécu parmi nous. Mais le monde d'alors ne l'a pas reconnu comme Messie. Maintenant encore, nous proclamons autour de nous que cette lumière brille encore. Combien vont-ils s'éclairer à cette lumière? Malheureusement, très peu. Mais nous qui voulons être au bénéfice de cette lumière, nous sommes appelés enfants de Dieu, enfants de lumière. Amen. Nous allons chanter un dernier chant avant d'entendre la méditation qui nous sera apportée par Jean-Luc. Seigneur notre Dieu, comme nous l'avons chanté, nous avons soif de t'entendre. Je pense que tu nous as déjà parlé ce matin, tu vas continuer encore à nous parler, à nous bénir. Nous voulons que tu te manifestes dans nos vies. C'est vrai que tu n'es plus ce petit enfant dans la crèche, tu es le roi de gloire, parti auprès du Père. Et nous savons encore que tu veux te manifester dans nos vies, dans nos familles, dans nos corps, dans notre entourage. Nous voulons encore que d'autres puissent atteindre cette lumière, devenir enfants de Dieu. Seigneur notre Dieu, maintenant nous sommes prêts à entendre ce message, afin que tu puisses nous parler et nous bénir. Amen. Je laisse la place à Jean-Luc pour la suite de ce culte.
Merci Daniel de cette préparation. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai admiré la qualité des vidéos, des textes, et l'idée, les idées qu'il y avait dans... J'ai trouvé ça génial. Alors je vous le partage quand même. Alors, tout a été dit. Faire une méditation sur Noël, qu'est-ce que je pouvais faire? Prendre un texte de Noël encore? Ben non, j'ai pris un texte qui a été écrit 50 ans après. Vous voulez que je mette un peu plus fort le micro, peut-être. Et je vous emmène dans l'Épître aux Galates. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 1 à 11. Je lis dans la version Nouvelle Français Courant. En d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, la situation ne diffère pas de celle d'un esclave, bien que, théoriquement, tout lui appartienne. En réalité, il est soumis à des personnes qui prennent soin de lui et qui s'occupent de ses affaires jusqu'au moment fixé par son père. Nous, de même, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des forces qui gouvernent le monde. Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Il a vécu sous la loi juive. Afin de délivrer les personnes qui étaient soumises à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants adoptifs de Dieu. La preuve que vous êtes ses enfants, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es enfant, tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de Dieu qui n'en sont pas en réalité. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt maintenant que Dieu vous connaît, comment est-il possible que vous retourniez à ces forces sans pouvoir et misérables qui gouvernent le monde? Voulez-vous redevenir leurs esclaves? Vous observez religieusement certains jours, certains mois, certaines saisons, certaines années, vous m'inquiétez. Toute la peine que je me suis donnée pour vous serait-elle inutile? Seigneur, je remets toute cette parole, tout ce que tu m'as donné entre tes mains, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné ton message. Encore une fois, que nous soyons édifiés par ce que tu veux nous dire, par ce que tu veux nous faire entendre. Que notre cœur soit ouvert à toi, au nom de Jésus. Amen. Dans ce texte, j'aimerais retirer d'abord un seul verset qui est quand même en rapport avec Noël. Et c'est le verset 4. Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Dans d'autres versions, c'est « Mais quand, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Texte tout à fait de Noël. J'ai tiré volontairement ce texte de son contexte, parce qu'à lui seul, il est toute la volonté de Dieu de nous rencontrer. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mot « temps ». Le temps. Dans notre version française, Louis II parle du temps accompli. Les temps sont accomplis. Darby parle de l'accomplissement du temps. La Bible de Jérusalem traduit la plénitude du temps. C'est-à-dire, c'est du kiff-kiff, du pareil au même. Mais la traduction de la Bible de Jérusalem rejoint la version originale et quand est venue la plénitude du temps. Comme si là, quelque chose s'était réellement passé. Et le temps est évident, rythme notre vie, notre contrainte. Souvenez, il y a 2 minutes, on était dans la salle à côté, en train de manger une dinde. Le temps passe vite. Nous ne pouvons pas y échapper. Notre sablier s'écoule inexorablement. Mais en cette nuit de Noël, il y a un temps qui s'est accompli. Un temps qui a basculé quelque chose dans une plénitude. Plénitude de paix, d'amour, de foi, d'espérance, comme le conte des 4 bougies. Voilà ce que nous dit aussi l'évangile de Luc, à la fin de la vie du ministère de Jésus, dans Luc 9,51, voilà ce qu'il est écrit. « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Jésus est venu dans notre temps. Et sa période était calculée. On dit « Dieu est éternel, Mais Jésus était dans le temps. Le Père éternel, qui par définition est hors du temps, n'a pas besoin de montre. Il est descendu parmi nous pour nous tendre la main, pour nous donner la lumière dans notre temps. Et tout ce texte, qu'on cite dans l'Évangile de l'enfance, c'est une période où Jésus a vécu de son enfance, quels que soient les auteurs qui la racontent. Alors on n'a pas de détails sur ce que Jésus a fait pendant cette période, on a crié à l'ordre du Lazare, seulement qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et c'est Luc 2, 52 qui nous dit ça. Tout ajout ou imagination pourrait être prise pour un manque de respect vis-à-vis de notre Seigneur. Certains disent qu'il est parti en Inde, enfin bref, je passe tout ça. Mais dans les récits qui nous intéressent, le temps est compté et précisé. Je ne sais pas si vous avez déjà lu bien tout ça. Luc 1, 5, du temps d'Hérode. Voilà, on sait quand ça se passe. Luc 1, 21, Zacharie, tu seras muet, tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Luc 1, 24, quelques temps après, Élisabeth devint enceinte. Luc 1, 39, dans ce même temps, Marie se leva et alla dans les montagnes. Luc 1, 57, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Luc 1, 70, comme il l'avait annoncé par la bouche de ce saint prophète des temps anciens, etc., etc., etc. C'est pas beaucoup, hein? Je suis toujours dans le premier chapitre de Luc. Luc 2, en ce temps-là, parut un édit de César. Luc 2, 6, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher. On ne parle que du temps. Un petit peu plus tard, quand même, dans Marc 1, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth et il fut baptisé dans le Jourdain. Et dans Marc 1, 15, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Tout cela afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par son prophète. Le temps. Jésus a pris du temps. Il a pris le temps pour venir. Et nous, vous attendiez à cette question-là, hein? Et nous, et notre temps. En fin de journée, on est content de ce qu'on a accompli. Hein? Toute journée, on s'est dit. Hein? Et pourtant, on n'a plus de temps, même pensionné. Je suis à la retraite, pas le temps. Le monde entier court après le temps, et pourtant, combien cherche un passe-temps pour s'occuper? Plus personne n'a pourtant le temps. Et pourtant, certains tuent le temps. Jésus, en venant sur cette terre, savait que son temps était compté. Vous allez me dire, ben nous aussi, c'est bien que quand on est, la chose qu'on est certain. Mais combien nous reste-t-il de jours, de minutes, de secondes? Sommes-nous vraiment prêts à accueillir notre Sauveur ou sommes-nous peut-être trop occupés à notre piété, à notre apparence de notre piété, comme nous le dit Paul? Et je sais, je l'ai déjà dit et je le répète. 2 Timothée 3, 1, 5, sachez que dans les derniers jours, on a encore dans le temps. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Oui, je sais, c'est un message de Noël. Mais les dispositions des hommes de l'époque de Jésus, c'étaient les mêmes. Et Paul est inquiet pour son église de Galatie. Ils ont connu la naissance du petit enfant Jésus. Ils l'ont vu grandir. Ils y ont cru. Ils sont devenus enfants de Dieu. Ils sont plus esclaves, comme nous dit le texte. Mais Paul nous rappelle qu'au temps marqué, Jésus est entré dans l'histoire. Comme nous le chantait le groupe Glorious au début de ce culte, Dieu est dans notre temps. Emmanuel, Dieu avec nous. Et nous, Que faisons-nous de notre temps ? À certains moments, j'ai eu ce verset qui m'a traversé, où il est dit « racheter le temps ». Et Paul est inquiet de la forme que prend l'Église de son temps. Pourtant, pas beaucoup plus tard que la naissance de Jésus, seulement 50 ans après sa naissance. Et il a déjà des problèmes. Quand on lit l'Épître aux Galates 1:6, « Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous a appelé par la grâce du Christ, et vous, vous vous tournez vers une autre bonne nouvelle. » Une certaine version marque un autre évangile. En réalité, il n'y en a pas d'autre. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Regardez autour de vous. On en a parlé depuis le début. Et combien Noël est loin de son origine. Est loin du temps où Marie accoucha. On veut changer la bonne nouvelle. Quand Daniel a posé la question, est-ce qu'on a seulement entendu le nom de Jésus ? Je ne sais même pas si dans les films de Noël on en parle. Peut-être, je ne sais pas. Changer la bonne nouvelle de Christ. Vacances d'hiver, on en a parlé. Au lieu de vacances de Noël, c'est plaisir d'hiver, au lieu de villages de Noël. Hélas, l'Église est influencée par l'extérieur. Nous sommes dans notre temps et qu'est-ce qui nous trouble ? J'ai trouvé cette image. Je ne sais pas où est l'Église. Je ne sais pas. Mais vous avez un sapin, vous avez le Père Noël, vous avez un bonhomme de neige. Mais la porte de l'Église est fermée. Alors, on est là. Nos oreilles entendent aussi cette phrase que j'ai déjà dit lors du concert. La magie de Noël. Tu viens mettre en tour, Daniel a dit l'esprit de Noël. Ça peut prêter à confusion. La magie de Noël. Bien sûr, oh, c'est gai, l'éclairage des rues, les vitrines et autres animations. C'est magique. Magique, féerique. Oh, ça devrait être toute l'année comme ça. Nous sortons d'une période d'Halloween. J'ai pas mis de photo. Mais bon. Il n'a aucune comparaison, mais pourquoi magie de Noël ? Alors je me suis quand même dit, magie de Noël, si on étudie les mots, ces deux mots tout à fait opposés, hein. Âme sensible, s'abstenir, les origines de la magie. Ensemble de croyances et de pratiques reposant sur l'idée qu'il existe des puissances cachées dans la nature, qu'il s'agit de se concilier ou de conjurer pour s'attirer un bien, ou susciter un malheur, visant ainsi à une efficacité matérielle. Et l'une des premières définitions de la magie est l'art d'influencer les événements et de produire des merveilles en utilisant des forces naturelles cachées. Ça, c'est le premier mot de magie. Il y a Noël aussi. Hein. Noël, le premier terme Noël, apparaît pour la première fois au XIIe siècle. Il dérive du latin natalis dies, signifiant « jour de naissance », évidemment Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. Alors ces deux mots-là mis côte à côte, je suis désolé, moi ça ne me va pas. Or, la naissance de Jésus n'a rien de magique, c'est pas non plus un lapin qu'on a sorti d'un chapeau. De toute façon, c'est même pas de la magie, c'est de l'illusion. Quand le lapin est sorti du chapeau, il paraît pardonné. Non, c'est pas magique, c'est de l'illusion. Le monde qui nous entoure a réussi à détourner la signification d'un mot abject en une signification qui nous ébahit, qui nous émerveille. La magie, émerveiller quelque chose de merveilleux. C'est sûr que la naissance de Jésus est merveilleuse, il est même à m'appeler admirable. Mais rien à voir avec la magie ou l'illusion. Alors, Noël, naissance de Jésus est un fait historique, ça c'est indéniable. Un heureux événement, rien à voir avec une influence magique quelconque sur les événements, autant marqué, quand Dieu l'a décidé. Il a envoyé son fils né d'une femme.
C'est une certitude. Jésus est venu sur la terre. Jésus est vraiment né. Et gloire à Dieu. Et dans notre passage, ce qui inquiète Paul, qui écrit aux Galates, c'est que l'Église écoute le monde. Écoute le monde extérieur et qu'ils veulent vivre avec leur temps. Ou vivre avec son temps, hein. En se détournant du véritable évangile, bonne nouvelle qui rend libre. Alors, comment voulez-vous que la bonne nouvelle de la naissance de Jésus soit prise au sérieux si on en fait un tour de magie? Raison plus pour qu'on ne croit pas non plus à son retour. Tout le monde est convaincu que le Père Noël reviendra l'année prochaine, apporter ses cadeaux l'année prochaine, mais pour ce qui est de revoir Jésus sur terre, combien sont les doutes? Je m'inquiète parfois, comme Paul, de l'état de l'Église en général. Mais voilà ce que Jésus me dit. Et c'est avec lui que je vais vous laisser cette conclusion. Je vais laisser Jésus parler. Ce n'est pas ton Église, c'est la mienne. Le jour de ma naissance, dans la crèche, il y avait ma maman qui, dans son humilité, a dit « Je suis la servante du Seigneur ». Il y avait Joseph, mon papa adoptif, qui a accepté d'être dans l'ombre tout en me protégeant. Il y avait de simples bergers qui sont venus pour m'adorer. Hors de cet endroit, il n'y avait pas de place pour moi. Alors pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui? L'Église est formée de femmes et d'hommes qui ont dit un jour « Je suis prêt à être là où tu me veux ». Tout commence par l'exclusion du monde moderne, continue sur la paille et grandit dans le cœur des femmes et des hommes de bonne volonté. Amen. Seigneur, nous voulons nous mettre devant toi, simplement t'adorer. Et encore une fois te dire merci parce que tu es venu. Et peut-être te demander aussi pardon si, dans toute cette magie de Noël, nous avons oublié que tu es notre Sauveur. Tu es notre Seigneur. Tu es le grand Dieu. Ô Seigneur, qu'à toi revienne toute la gloire. Amen.
Jésus, là où tu es né, au milieu de Joseph et de Marie, ta crèche n'était pas fermée. Tout le monde pouvait entrer. Jésus, quand tu es né, tu as voulu que tout le monde puisse venir te voir, parce que tu es venu pour tout le monde. Avant que tu ne naisses, Jésus, Joseph, et Marie n'avait trouvé que des maisons aux portes fermées. Fermées au secret de Dieu, ils ont trouvé ouverte une étable, une pauvre étable. Mon cœur, il peut aussi être ouvert ou fermé pour aimer. Mes mains, elles peuvent être aussi ouvertes ou fermées pour donner. Ma vie, elle peut aussi être ouverte ou fermée pour faire vivre. Aujourd'hui, Jésus, tu ne nais plus dans une étable, mais tu veux naître, dire le secret de Dieu dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages. Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde. Tu veux des millions de cœurs pour donner ta paix sur la terre. Tu veux des millions de visages pour donner la paix de Dieu. Tu veux des millions de Noël pour donner ton Noël. Ouvre les maisons fermées par la peur ou par la richesse. Ouvre les cœurs fermés par le chagrin ou par l'égoïsme. Ouvre les visages fermés par la colère ou par le manque d'amour. Jésus, Viens ouvrir nos sourires et nos lèvres. Viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour dire avec toi, gloire à Dieu, notre Père.